Les justes et les méchants, psaume 1. Le psaume 1 peut être considéré comme une préface ou une introduction à l'ensemble du livre des psaumes. Depuis les temps anciens, certains membres du peuple de Dieu combinaient le psaume 1 avec le psaume 2 ou bien considéraient le psaume 2 comme le premier psaume, ce qui ferait du psaume 1 une préface ou une introduction. Certains manuscrits d'Actes 13:2.33 appellent le psaume 2 le premier psaume 1, ce qui signifie que le psaume 1 est combiné avec lui ou constitue une préface distincte. Bien que nous ne connaissions pas l'histoire de ce psaume, car personne ne sait qui en est l'auteur, ni s'il a été écrit comme préface, il convient comme introduction à l'ensemble du livre. Deux modes de vie opposés se dessinent, deux choix que l'homme peut faire et deux façons de marcher. Les justes bienheureux et l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le sentier des pécheurs, et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. V1. Alors que le sermon sur la montagne s'ouvre sur des déclarations sur le type de style de vie qui est béni, les psaumes commencent par dire que la vie bénie ou heureuse est celle qui évite la méchanceté. En 1660, John Trapp commentait, « Le psalmiste en dit plus sur le vrai bonheur dans ce court psaume que n'importe lequel des philosophes, ou tous les philosophes réunis, ils n'ont fait que battre le buisson, Dieu a ici mis l'oiseau entre nos mains. » 2.1f. F. Bruce, Le Livre des Actes, dans The New International Commentary on the New Testament, première édition, Rev. Grand Rapids, Michigan, WM. Baird-Mann Publishing Company, 1988, 258 N. Le psaume, et tout le livre des psaumes, commence par expliquer comment atteindre le but auquel nous aspirons tous, la béatitude et le bonheur. L'homme bienheureux est celui qui ne suit pas le conseil des méchants. Au lieu de cela, il suit des conseils plus sages, les conseils de Dieu. La parole de Dieu dirige ses pas plutôt que les conseils des méchants. Tout le monde sait à quel point un mauvais conseil peut être tragique dans la prise de décision. Grâce à de mauvais conseils, vous pourriez prendre une terrible décision financière ou acheter un produit de qualité inférieure. Pire encore, à cause de mauvais conseils, vous pourriez mettre votre âme en danger. En revanche, si vous obtenez de bons conseils, cela ne vous sera que bénéfique. Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans l'abondance de conseillers il y a la victoire. Proverbe 11:14. L'homme béni ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Cette déclaration révèle une intensification de l'implication dans le péché. C'est une chose de suivre les conseils d'une personne méchante qui vous induit ensuite en erreur. C'est pire de commencer à mener leur propre style de vie. Chemin fait référence à un parcours de vie. Ensuite, la personne bénie ne s'assoit pas à la place des moqueurs. Cette phrase montre une progression ultérieure dans le péché. Cela peut aller au-delà du fait de recevoir de mauvais conseils et de mener un mode de vie pécheur. Une personne peut prendre position en se moquant et en ridiculisant ce qui est juste. Le siège des moqueurs désigne une position d'enseignant, d'instructeur ou d'avocat. Lorsque Jésus parlait des scribes et des pharisiens qui se sont assis sur la chaise de deux cités dans C.H. Spurgeon, de Treasury of David, Londres, Marshall, Morgan et Scott, SD, Réimpression, Grand Rapids DS, Michigan, Back et Book House, 1978, vol 1, 4. Moïse, Matthieu 23, 2, il voulait dire qu'ils étaient des enseignants de la loi de Moïse. Ainsi, celui qui s'assoit à la place d'un moqueur est un fervent défenseur du mal. Le mot moqueur est courant dans les proverbes mais ne se trouve que ici dans le livre des psaumes. Spurgeon a dit, « Le siège du moqueur est peut-être très élevé, mais il est très près de la porte de l'enfer. » 3. Le moqueur non seulement pratique le mal, mais aussi, avec un orgueil arrogant, se moque de ce qui est pur et chaste. Certaines personnes sont devenues populaires, d'autres riches, en se moquant de la Bible, de l'Église du Seigneur ou de la religion en général. Les stéréotypes insultants à l'égard des personnes religieuses sont courants dans les films, les émissions de télévision ou les monologues d'humoristes. Une personnalité bien connue a récemment déclaré que le christianisme est une religion de perdants. Pensez à la manière dont la colère de Dieu se manifestera contre les moqueurs et les moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu devraient se rappeler, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Car celui qui sème pour sa propre chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Galates 2.7, 8. Le docteur Welchenfeld de Berlin prononcera un discours dans la grande salle de l'hôtel et prouvera sans aucun doute que Dieu n'existe pas. Un forgeron nommé Uchwedel, originaire d'une région éloignée, a vu l'affiche et a dit, « Je dois y aller ». Pendant plus d'une heure, l'infidèle a parlé contre Dieu et la Bible. Il a conclu, « J'ai maintenant prouvé de la manière la plus claire que Dieu n'existe pas. Si je me trompe, Ce serait maintenant le devoir moral de Dieu d'envoyer un ange pour me frapper les oreilles devant vous tous à cause des insultes que j'ai proférées contre lui. » Il regarda autour de lui triomphalement comme si de rien n'était. Finalement, le forgeron s'est avancé devant le public et a dit, « Dieu vous salue, le public, mais pour des coquins comme vous, l'infidèle, il n'envoie pas d'ange. Uchoadel peut s'en occuper. » Il a frappé les oreilles de l'infidèle, le jetant au sol, sous les applaudissements tonitruants du public. 4. Cette histoire n'est pas racontée pour encourager la violence comme solution à la plupart des problèmes, mais pour souligner que les moqueurs jouent un jeu dangereux en se moquant de Dieu. 3 Ibi, 1. 4 G. B.F. Alloc, 5000 meilleures illustrations modernes, New York, Richard R. Smith, 1927, 401 à 2. Portez son jugement, mais il est plus à craindre que la colère musclée de Uchoadel. Mais son plaisir réside dans la loi du Seigneur et dont il médite sa loi jour et nuit, V2. Trois négatifs ont été donnés au verset 1, trois choses que l'homme béni ne fait pas. Le verset 2 décrit le côté positif d'une vie qui apporte le bonheur. Bienheureux est l'homme dont le plaisir est dans la loi du Seigneur. Si cela a été écrit à l'époque de David ou de Salomon, ou même après cette époque, sachez que seule une partie de la Bible avait été composée. Principalement, tout ce qu'ils avaient été le Pentateuque. Combien plus nous avons de paroles des prophètes et du Nouveau Testament. Combien plus alors devrions-nous être capables d'apprécier et d'aimer la Bible? Sommes-nous comme les Béréens dans notre étude de la Bible, Actes 17 2.11? Pouvons-nous dire que le verset 2 nous décrit? Est-ce que nous prenons plaisir à la parole de Dieu? Revendiquer une pureté négative en ne marchant pas dans la voie des impies est une chose. C'en est une autre d'aimer et de se réjouir du bien. Nous aspirons à être en compagnie de ceux que nous aimons. Si nous aimons et prenons plaisir à la parole de Dieu, nous voudrons sa compagnie. À quelle fréquence le recherchons-nous? Le lisons-nous quotidiennement? Assistons-nous régulièrement à des cours bibliques pour en apprendre davantage sur la Bible? Pouvons-nous déclarer, « La loi de ta bouche vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent » 119.72. Un ministre a été invité à se rendre dans une maison pour célébrer une cérémonie de mariage. À son arrivée, il leur a demandé de prendre leur Bible familiale. Ils ont fouillé toute la maison pour trouver une Bible. Finalement, on en a trouvé un dans un vieux coffre du grenier, un vieux coffre de mer. À l'extérieur était écrit, chose dont on n'a pas voulu pendant le voyage. C'est ainsi dans le cœur de beaucoup aujourd'hui, mais béni soit l'homme qui prend plaisir à la parole de Dieu. Lorsque vous entendez une personne parler négativement de la Bible, en disant qu'elle est ennuyeuse ou en se plaignant qu'elle est trop difficile à comprendre, vous pouvez être sûr que cette personne n'a pas passé beaucoup de temps à étudier la Bible. Une compréhension approfondie de la parole ne sera pas facile. Cela nécessitera une étude assidue jour et nuit. Et plus vous vous familiariserez avec la Bible, plus elle deviendra éclairante. Ce dont nous remplissons notre esprit déterminera le genre de personne que nous sommes. Sur quoi méditez-vous? Des blagues sales? Des pensées lubriques? Des films remplis de violence, de grossièreté et de sexualité? L'immoralité? Ou méditez-vous la parole de Dieu? Et il sera comme un arbre fermement planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit pas, et quoi qu'il fasse, il prospère. V3. Remarquez la métaphore utilisée par le psalmiste. Il parle d'un arbre planté plutôt que d'un arbre sauvage. Cet arbre a été cultivé. Il parle symboliquement de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée » Matthieu 15, 13. Pour prospérer, une œuvre doit être de Dieu. Cet arbre est planté au bord des cours d'eau. Surtout en Égypte et en Mésopotamie, il était courant d'irriguer les vergers. Un tel arbre aurait toujours une bonne réserve d'eau. Nous pouvons toujours compter sur Dieu pour répondre à nos besoins spirituels. Il ne faillira pas et ne nous abandonnera pas. Dieu connaît nos besoins. Il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Celui qui marche sur le chemin de la justice n'est pas seulement comme un arbre bien arrosé, mais aussi comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. En tant que chrétiens, nous devons porter du fruit. Le fruit en sa saison signifie au moment opportun. Nous devrions être capables de dire un mot pertinent pour diverses situations et de poser la bonne action au bon moment. Si nous sommes confrontés à la souffrance, nous devrions être capables de réagir avec patience et une tranquillité d'esprit intérieur. Si nous sommes confrontés à des épreuves, nous devrions pouvoir renforcer notre foi. Si nous bénéficions de la prospérité, nous ne devrions pas manquer d'humilité, de générosité envers ceux qui sont dans le besoin et de sainteté. Si nous constatons une injustice, nous devrions répondre par un mot en faveur de l'équité et de la compassion. Une vie pieuse doit être caractérisée par la stabilité malgré les circonstances changeantes. C'est pourquoi le psalmiste écrit « Sa feuille ne se flétrit pas ». Isaïe a utilisé une métaphore contrastée pour désigner les transgresseurs de la volonté de Dieu, car vous serez comme un chêne dont la feuille se fane, ou comme un jardin qui n'a pas d'eau, Isaïe 1, 30. Les paroles de Jérémie sont également similaires, « Bienheureux est l'homme qui a confiance dans le Seigneur et dont la confiance est le Seigneur. Car il sera comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines près d'un ruisseau et qui ne craindra pas quand vient la chaleur, mais ses feuilles seront vertes, et il ne s'inquiétera pas d'une année de sécheresse et ne cessera pas de produire des fruits, Jérémie 17, 7, 8. Le psalmiste continue, et quoi qu'il arrive s'il le fait, il prospère. Appliquer cela uniquement à la prospérité matérielle revient à pervertir l'accent mis dans la Bible. L'évangile de santé, de richesse et de prospérité, si populaire auprès de nombreux télévangélistes, est une perversion de la Bible. Même si le bien-être matériel n'est certainement pas exclu, après tout, nous vivons dans un corps dans un monde physique, l'accent est toujours mis sur la prospérité spirituelle. Nous prospérerons parce que notre travail pour le Seigneur ne sera pas vain si nous luttons pour la justice, Confère 92, 12 à 14. Les méchants ne le sont pas, mais ils sont comme la paille que le vent chasse, V4. Le psalmiste considère maintenant le sort des méchants par opposition à la bénédiction des justes. Les méchants sont comme la balle que le vent chasse. La balle est morte et sans valeur. La balle doit être séparée du grain qui est utile. Les motifs de jugement sont abondants en référence aux méchants, mais ne limitent pas le jugement dans ce psaume au jugement final. Tout au plus, le jugement final se situe-t-il en arrière-plan? Les enseignements sur la vie prochaine ne sont pas encore développés dans la révélation biblique. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, V5. Bien que le psalmiste ait effectivement à l'esprit le jugement temporel dans cette vie, il nous est difficile de ne pas appliquer ses pensées au jugement final, puisque nous nous trouvons de l'autre côté de la révélation du Nouveau Testament. En jugement, que ce soit dans l'histoire ou à la fin du monde, les impies ne résisteront pas. Tout le monde sera jugé, mais les justes ne seront pas jugés dans le sens où ils ne seront pas condamnés. Beaucoup ont l'idée erronée que les justes ne seront pas jugés du tout, mais le mot juger a un double sens, être jugé et être reconnu coupable. Les justes seront jugés par Dieu, mais ils ne seront pas reconnus coupables. Les méchants, cependant, ne seront pas jugés, ils seront jugés et reconnus coupables. Les pécheurs ne pourront pas se tenir dans l'assemblée des justes. À l'origine, cela faisait probablement référence au jugement humain au sein du droit communauté de la nation juive. Le même principe s'applique au jugement final. Les pécheurs rebelles qui ne bénéficient pas de la grâce de Dieu ne seront pas autorisés à se tenir aux côtés des justes et à accéder aux récompenses du ciel. Spurgeon a une déclaration éloquente sur ce passage, que les saints aspirent au ciel, car aucun homme méchant n'y habitera. Toutes nos congrégations sur terre sont mixtes. Chaque église a un diable en elle. L'ivraie pousse dans les mêmes sillons que le blé. Il n'existe pas encore de sol complètement débarrassé des paillettes. Les pécheurs se mélangent aux saints, comme les scories se mélangent à l'or. Les précieux diamants de Dieu se trouvent toujours dans le même champ que les cailloux. Les justes sont continuellement tourmentés de ce côté-ci du ciel par les hommes de Sodome. Réjouissons-nous donc de ce que dans l'Assemblée Générale l'Église des premiers-nés d'en haut, aucune âme non renouvelée ne sera en aucun cas admise. Les pécheurs ne peuvent pas vivre au ciel. Ils seraient hors de leur élément. Plutôt un poisson pourrait vivre sur un arbre que les méchants au paradis, 5 conclusions car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra, V6. Dieu connaît les justes et veille sur eux avec amour. Job a parlé de la façon dont il cherchait Dieu. Il allait en avant, en arrière, à gauche et à droite, mais il ne pouvait ni voir ni contempler Dieu, Job 23, 8, 9. L'incapacité de l'homme à atteindre et à toucher Dieu n'a aucun rapport avec la compassion débordante de Dieu pour l'homme. Même si Job n'a pas pu trouver Dieu, Dieu a pu le trouver, mais il connaît le chemin que je prends, Job 23, 10, a conclu Job. Dieu surveillera le chemin des justes pour leur bénéfice à travers sa sollicitude providentielle et aimante, Romains 8, 28, mais le chemin des méchants périra. On nous a déjà dit que les méchants périront. Le psalmiste souligne que la voie des méchants périra également. Leur style de vie est une voie sans issue qui mène à la destruction, car elle les éloigne de Dieu et de sa loi. Le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La vie misérable qui mène à la misère consiste à rejeter Dieu et à se moquer de la pureté et de la sainteté. 5 Spurgeon, Trésor, vol 1, 3. Méditation sur les psaumes. Les commandements de Dieu, psaume 19, 7 à 11, le psalmiste du psaume 19 dit à propos des commandements de Dieu. 1. Ils sont puissants, convertir l'âme, V7. 2. Ils sont clairs, rendre sages les simples, V7. 3. Ils sont agréables, la joie du cœur, V8. 4. Ils sont purs, le commandement du le Seigneur est pur, V8. 5. Ils sont permanents, durant éternellement, V9. 6. Ils sont précieux, plus désirables que beaucoup d'or fin, V10. 7. Ils sont préventifs, c'est par eux que ton serviteur est averti, V11. 3 voix, psaume 19, à la lecture du psaume 19, 3 grandes voix se font entendre. 1. La voix de la nature de Dieu, VV1 à 6, 2. La voix de la révélation de Dieu, V7 à 11, 3. La voix de la prière de l'homme adressée à Dieu, V12 à 14, Frank L. Cox. La loi de Dieu n'est pas sur l'approbation, psaume 19, 7, 1. Certaines lois créées par l'homme ne s'appliquent qu'à ceux qui les acceptent, la loi de Dieu est pour tous. 2. Certaines lois créées par l'homme ne s'appliquent qu'à certaines localités, copyright, 1990, 2005 par Truth for Today, tout droit réservé, la loi de Dieu s'impose partout. 3. Certaines lois créées par l'homme changent avec le temps, la loi de Dieu demeure éternellement. W.E. Sanctae, Westminster Sermon, vol 1. Le péché de la confiance en soi, psaume 19h13, qu'est-ce qu'être coupable d'un péché présomptueux? C'est pour nous. 1. Traiter avec négligence nos défauts secrets. 2. Mépriser les débuts de l'habitude. 3. S'exposer inutilement à la tentation. 4. Affronter les périls inévitables de la vie sans préparation adéquate. W.L. Watkinson, le troc fatal.